Alors, on ne pourra pas le livre le lire entièrement, et je vous invite à ouvrir vos Bibles à l'endroit où il y a le livre de Ruth, car nous y ferons des lectures éparses, en espérant que ces lectures éparpillées puissent quand même nous donner une vue globale, une vue d'ensemble. Vous vous rappelez que Ruth est une étrangère, une Moabite. Et il y a comme personnages principaux, pour nous remémorer un petit peu ce qui s'est passé en ce temps-là, il y a Élimélec et Naomi, il y a Ruth, il y a évidemment Boaz. Et la fin se termine même avec Obed. Alors on va lire au chapitre 1er, verset 1er, et jusqu'au verset 7, pour voir un petit peu le démarrage de cette histoire. Ruth, chapitre 1er, verset 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec. Celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle l'apprit. Au pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Amen. Amen. Alors, nous avons dans ce texte le départ d'Élimélec et le retour de Naomi. Son départ s'explique par une famine qui elle-même s'explique par un jugement de Dieu. L'Écriture nous dit que c'était au temps des juges qu'il y eut une famine. Ce n'est pas un temps de fidélité. D'ailleurs, il y a eu dans l'histoire d'Israël de rares périodes de fidélité. En réalité, c'est Dieu qui est fidèle. Mais nous, malheureusement, nous sommes infidèles. Mais lui ne peut se renier lui-même, son nom est béni. Dans cette période de juge, Dieu parlait à son peuple de plusieurs façons, par des libérateurs, par des prophètes, par aussi des jugements et ici la famine. La loi expliquait que quand Israël se détournerait de Dieu, Dieu essaierait de lui parler par des avertissements, des jugements. Et parfois, quand Dieu nous punit, même pas parfois, toujours, quand Dieu nous punit, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous parler. C'est pour nous rappeler à lui. Amen. Malheureusement, la solution d'Élimélec a été de partir d'Israël. C'est jamais la solution de partir de l'Église. Jamais. C'est vrai que nous sommes dans des temps difficiles. C'était des temps difficiles au temps des juges et la parole de Dieu nous dit que nous, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles, bien sûr. Des jours difficiles et parfois même une famine et une faim, une soif de Dieu dans notre temps. Mais ce n'est certainement pas en allant dans le monde que nous allons y trouver le Seigneur. C'est toujours une erreur de s'éloigner de l'Église. Frères et sœurs, soyons fidèles à l'assemblée locale, aux réunions de l'Église. C'est là que Dieu nous fera grâce. Amen. qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. Dieu soit béni. C'est vrai que Dieu est omniprésent, présent partout, mais il est particulièrement présent dans l'Église. C'est là qu'il est. Merci Seigneur, pour que nous puissions l'y rencontrer. C'est la pire décennie pour Naomi, un peu plus de 10 ans, son mari meurt, ses 2 enfants meurent. C'est la pire décennie de sa vie. Et je pense que si on quitte l'Église, ça sera le pire pour nous. Et ce matin, il y a eu plusieurs exhortations à revenir. Et Naomi, c'est ce qu'elle fait, elle revient. Elle retourne vers Dieu. Retourner en Israël, c'est revenir à Dieu. Et je le crois, revenir à l'Église, c'est retourner vers Dieu. Merci Seigneur. C'est un leurre que de penser que l'on peut croire au Seigneur sans aller à l'Église. C'est un leurre de croire que l'on peut vraiment revenir au Seigneur d'une façon isolée, dans son coin. Se priver de l'Église, c'est s'affaiblir, c'est s'éloigner. Alors il faut revenir. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont Naomi est revenue. Tout d'abord, elle est revenue dans la foi et la repentance. Alors ça, on va lire quelques versets, si vous voulez bien. Toujours au chapitre 1er, lisons le verset 8. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elle a gardé la foi, Naomi. C'est vrai qu'elle est partie d'Israël, elle s'est éloignée. Elle a vécu 10 années très difficiles, des échecs, mais elle garde la foi. Que l'Éternel use de bonté envers vous. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. L'Éternel est encore dans sa vie. Elle ne revient pas en ayant perdu la foi. Et il me semble qu'il y a des moments où, sans perdre la foi, on a quand même besoin de revenir à Dieu. Sans perdre la foi, de revenir dans la maison de Dieu. Amen. Et d'ailleurs, on peut être dans l'Église sans vraiment être revenu dans l'Église. Pour revenir à Dieu, ce doit aussi être dans la repentance. Et là, on va lire le verset 13, s'il vous plaît. Non, un peu plus loin. Versets 20 et 21. Alors elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. » Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, et après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, la Ruth la Moabite. Amen. Elle revient avec repentance. Il faut bien comprendre ces versets. Quand elle revient à Bethléem, toute la ville est émue. Tout le monde est étonné. Est-ce bien là, Naomi, elle revient? Cela provoque une vive émotion dans la ville. Mais Naomi les fait taire. Non, ne m'appelez pas Naomi. Ça vous rappelle rien dans le Nouveau Testament? Non, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Non, ne m'appelez pas Naomi. Le Tout-Puissant s'est prononcé contre moi. Alors, si on comprend mal ce verset, on va avoir peut-être l'impression que Naomi en veut à Dieu, en lui reprochant que Dieu a été contre elle. Mais pas du tout. Elle a gardé la foi, et elle ose être vraie. Elle se repent, elle revient humiliée, elle dit, avec mon mari est parti de Bethléem. On était riches, on avait tout. On revient. Dieu nous a tout enlevé. Ce n'est pas pour le moment, pour moi, d'être heureuse. Jacques dit, humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur. Jacques dit, que votre rire se change en deuil. Il y a des moments où ce n'est pas le moment d'être heureux, c'est le moment de revenir à Dieu. Et on revient à Dieu en reconnaissant ses fautes, son péché, en reconnaissant son échec. Alors, c'est délicat parce qu'elle a suivi son époux, c'était Élimélec qui est parti. Est-ce que Naomi vraiment, à la base, était d'accord, pas d'accord? Le texte ne le dit pas, mais néanmoins, elle revient quand même humiliée. Et c'est bon de revenir humiliée au Seigneur. Il faudrait que tous ceux et celles qui reviennent à l'Église reviennent dans un bon état d'esprit. Non pas par la grande porte, mais par la petite porte. La ville était émue, la grande porte était peut-être ouverte, mais elle dit, non, je ne peux pas passer par la grande porte, je dois passer par la petite porte, parce que Dieu m'a humilié. D'ailleurs, étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie éternelle, ce n'est pas une grande porte, c'est une petite porte. Amen. Pour être sauvé, il faudra toujours faire le choix de passer par la petite porte au moyen de la repentance et de l'humiliation. Ah, quand c'est large et grand, grand ouvert, alors effectivement, on peut peut-être redresser la tête. Mais ce n'est pas comme ça que l'on revient à Dieu. Au chapitre 2, verset 20, lisons ensemble encore ce verset. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Amen. Donc ici, c'est pour vous confirmer que Naomi n'a jamais eu d'amertume contre Dieu. Parce qu'ici, elle dit que Dieu a toujours été bon envers les vivants, donc elle qui a survécu, comme pour les morts, c'est-à-dire son mari et ses deux fils. Elle n'a jamais eu d'amertume envers Dieu. Elle dit, mais Dieu a toujours été bon avec nous. Alors quelqu'un aurait pu peut-être lui dire, non mais attends, Naomi, réveille-toi. Ton mari est mort, tes deux fils sont morts. Et toi, tu continues à dire que Dieu a toujours été bon avec toi et même avec ceux qui sont morts. Ben Naomi aurait dit, ben bien sûr, mais c'est nous qui sommes partis du pays. Et puis Dieu fait ce qu'il veut. Mais Dieu a toujours été bon avec moi, avec mon mari, avec mes deux fils. Alléluia. Et nous voudrions avoir ce cœur de Naomi pour toujours dire, le Seigneur a toujours été bon envers nous. Pas le dire pour l'inventer, mais parce que c'est vrai. Il nous faut simplement le reconnaître. Alléluia. Oui, Naomi n'a jamais eu d'amertume envers Dieu. Quand elle dit que le Tout-Puissant l'a remplie d'amertume, elle veut dire par là que le Tout-Puissant l'a humiliée et qu'elle a cette tristesse de la repentance qu'on ne regrette jamais. Amen. Il y a tristesse et tristesse. Puis au chapitre 4, verset 15, on lit ensemble. Ça finit si bien pour elle. Chapitre 4, verset 15. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Amen. Cela finit bien pour Naomi. Elle est revenue à Dieu dans la repentance et l'humiliation. Et elle a été à la fin consolée par Obed. Obed. Pour nous, nous savons qui est Obed. Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez ce que veut dire Obed ? Celui qui sert. Le serviteur de l'Éternel d'Ésaïe, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit, je ne suis pas venu autre chose que pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup. Amen. Elle est consolée par Obed. Nous serons toujours consolés en rencontrant Jésus-Christ. Alléluia. Le retour de Naomi l'a conduite dans Israël, mais plus encore, lui a permis de connaître la consolation d'Israël, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Et ce qui compte pour nous, c'est certainement de revenir à Dieu, de revenir humilié dans l'Église, mais d'y trouver une consolation par la communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Beaucoup de prières l'ont dit avec raison ce matin. Si on regarde à nous, c'est le désespoir. Mais si on regarde, ayant les yeux fixés sur Jésus, alors là, c'est l'espérance. Béni soit son nom. Nous l'avons chanté tout à l'heure dans le cantique, il nous délivre de la folie de nos projets. Je trouve que c'est une belle conclusion de ce retour de Naomi. Quelle folie de partir, mais quelle grâce de revenir et de trouver en Jésus-Christ un plein pardon, une pleine consolation. Dieu soit béni. Et ça, c'est extraordinaire. Peut-être quelqu'un ce matin s'est éloigné de Dieu, est parti loin, mais nous croyons que Dieu est ce Père du Fils prodigue qui tend les bras et qui de loin court vers son Fils. Elle l'embrasse tandis que lui pleure. Alléluia. Naomi, cela nous parle aussi du reste fidèle d'Israël. Elle est la seule qui est restée vivante de toute sa famille. Elle a ramené Ruth, l'étrangère, près de son rédempteur, Boaz, nous en parlerons tout à l'heure. Naomi est un symbole du reste d'Israël. Dans tout l'Ancien Testament, il y a toujours eu un reste en Israël. Et l'apôtre Paul dit qu'encore aujourd'hui, il y a un reste selon l'élection de sa grâce. Et l'Épître aux Romains, ce sont tous les Juifs qui croient en Jésus-Christ depuis toutes les générations dans l'ère de l'Église. Dieu soit béni. Merci Seigneur. Oui, il y a toujours eu un reste fidèle. Parlons maintenant de Ruth, la rachetée. Quel exemple ! On va lire ensemble quelques éléments. Chapitre 1er, versets 16 et 18. Chapitre 1er, verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. » Ruth 1, 16. « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. » Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Amen. Ruth est tout d'abord un exemple de conversion, un exemple de détermination. Et pourtant, Naomi insiste, mais non, repars, mais repars dans ton pays, repars dans ta famille. Regarde, regarde ta belle-sœur, elle est partie, va avec elle. On est étonné parfois dans l'évangile, à un moment donné, tout le monde abandonne le Seigneur. Le Seigneur se retourne vers ses apôtres et dit, et vous, vous ne voulez pas partir non plus? On aurait envie de dire, non Seigneur, c'est pas le moment. Ils partent tous, faut pas en plus. Et c'est là que Pierre a cette parole magnifique. « Seigneur, mais à quel autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia !» Mais, vous savez, nous, nous avons tendance à vouloir faciliter les conversions. Alors, il suffit de lever sa main dans un grand rassemblement, de signer une carte réponse. Très vite, après, on baptise les gens et on fait des rapports de mission ou autre, et de dire « Il y a eu autant de conversions, c'est telle réunion !» où on adapte l'Église au plaisir et au désir des uns et des autres. Mais vous savez, Dieu ne facilitera jamais la conversion. Dieu a tout fait pour faciliter notre salut. Amen, ça je le crois. C'est un salut par grâce, Christ a tout accompli pour nous. Amen. Mais néanmoins, la conversion, elle ne doit pas être à 50%. Elle doit être déterminée. Une conversion, c'est une résolution de croire au Seigneur et de le suivre toute sa vie. Amen. Et là, Naomi essuie un échec. Ruth est plus décidée que son insistance. Béni soit Dieu. Pour aller au ciel, il va falloir être résolu tout au long de notre vie. Parce qu'il y a un adversaire qui vous tentera de mille et une façons pour que vous abandonniez le Seigneur. Et il y aura des gens qui vous feront la pression pour vous éloigner ou quitter l'Église. Mais nous, nous sommes décidés de suivre Jésus-Christ. Ce cantique dit « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. » Alléluia. Dieu soit béni. C'est l'engagement du baptême. Au baptême, nous avons décidé avec résolution de suivre le Seigneur jusqu'en la vie éternelle. C'est un exemple de conversion. Alors, petit conseil peut-être, ne dites pas trop facilement autour de vous, allez, prends ton baptême, allez, allez, vas-y, vas-y. Il faut que ce soit l'œuvre de Dieu. Il faut que notre foi doit être éprouvée. Elle sera éprouvée tout au long de la vie. Nous ne méritons pas le salut, mais nous devons nous en montrer dignes. Et la façon dont nous devons nous montrer dignes du salut, c'est au fur et à mesure de ces épreuves de la foi, de montrer au Seigneur qu'on l'aime plus que toutes les tentations qui nous sont proposées. Amen. Deuxième exemple, c'est le courage, chapitre 2, verset 7. Voilà ce qui est dit, on le lit ensemble. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Et ne se reposer qu'un moment dans la maison. Amen. Alors, elle n'était pas amatrice de pauses multipliées. J'ai connu des collègues de travail qui, si on cumulait la pause plus les pauses café, ne travaillaient pas tout à fait le compte pour lequel ils étaient rémunérés. Ruth n'était pas de ce genre-là. Ruth était courageuse. Alors je sais que souvent on a un petit peu romantisé le livre de Ruth. On voit Ruth, l'étrangère, la belle étrangère qui rencontre son prince charmant, Boaz. Mais c'était pas ça. Ruth, c'était plutôt une paysanne qui travaillait dur de ses mains. Je pense pas qu'elle avait des belles mains bien soignées, mains de travailleuse. Elle était courageuse. Et on le verra tout à l'heure, c'était un drôle de mariage. Il y avait un grand écart d'âge entre Boaz et Ruth. Un très grand écart d'âge. Au bas mot, 20 ans. Donc, c'était quand même étonnant. Ce n'était pas un mariage d'amour. Enfin, oui et non, nous le verrons tout à l'heure. Non, mais Ruth était une femme vaillante. Le livre des Proverbes au chapitre 31 nous parle de la femme vertueuse. D'autres traductions disent la femme vaillante ou courageuse. On peut vraiment le traduire comme ça. Parce que dans la Bible, la vertu, c'est aussi beaucoup le courage. Amen. Le courage. Il faut être courageux dans la vie pour travailler. C'est une qualité. Travaillons à notre salut. Amen. Alors, c'est une qualité dans la vie, même, je dirais, profane, même si rien n'est profane, en fait, dans notre vie. Tout est spirituel, en réel. Mais, je veux dire, un chrétien doit se caractériser sur son lieu de travail par le courage. Arriver à l'heure, déjà. Arriver à l'heure à son travail. Montrer l'exemple en ne resquillant pas, en ne contredisant pas, mais en faisant le boulot. Amen. Un chrétien doit être exemplaire sur son travail dans le domaine du courage, de ce qu'on lui demande de faire. Alors, Tout ce qui est dit n'est pas dit. Vous savez, on peut prendre la prédication toujours à l'envers. Vous pouvez vous faire du mal avec ce que je viens de dire. Ah, mais moi, je ne suis pas exemplaire, je suis condamné. Non. C'est dit, parce que c'est toujours facile de se victimiser. Il faut prendre ses responsabilités. Quand la parole de Dieu nous concerne, ne la prenons pas mal. Pour dire, alors je suis un mauvais chrétien. Non. Mais prenons-la et disons, Seigneur, là c'est vrai. Aide-moi à faire des progrès dans le domaine du courage sur mon lieu de travail. Amen. Voilà. Mais au-delà de cet aspect très pratique, je crois qu'il nous faut avoir du courage pour travailler à notre salut. Et on est capable d'être très courageux pour faire du travail concret et si peu courageux pour prier, pour lire la parole, pour aller aux réunions, pour obéir et trancher avec le péché. C'est curieux, hein? Parfois, il y a des gens très courageux dans la vie et pas du tout courageux dans le salut. Elle était résolue dans sa conversion et travailleuse dans son salut. Soyons résolus et travailleurs dans notre salut. Alors vous allez me dire, mais moi je ne sais rien faire, c'est le Seigneur qui fait. C'est difficile des fois, hein, de dire, alors des fois on se dit, mais quand est-ce que c'est le Seigneur qui fait et quand est-ce que c'est moi qui dois faire? Et alors on s'embrouille et c'est de plus en plus difficile. C'est le Seigneur qui fait mais pas sans nous, c'est simple. C'est le Seigneur, c'est son esprit, mais pas sans nous. Et je crois que c'est d'abord le Seigneur. Je l'ai prêché il n'y a pas longtemps. Tout dans la vie se vit par la vie chrétienne, se vit par le moyen de la foi. C'est d'abord la foi en Jésus, la relation avec lui. Mais dans cette foi, nous avons à faire notre part, tout simplement. Et être courageux dans le salut. Elle est aussi exemplaire dans son humilité. Et dans sa reconnaissance, on lit au verset 10, chapitre 2, verset 10, « Alors elle tomba sur sa face, elle se prosterna contre terre et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Elle aussi, elle a de l'humilité. Naomi est humiliée, mais Ruth, elle est reconnaissante. La reconnaissance est une facette de l'humilité. Vous savez, quand on est orgueilleux, on croit que tout le monde nous doit tout. Et on est même impoli et incorrect. Mais quand on est humilié, on reçoit de la main de Dieu ses faveurs avec reconnaissance. Amen. Et elle dit à Boaz, mais comment tu peux t'intéresser à moi? Je suis une Moabite. Je suis une étrangère, toi t'es un seigneur en Israël, t'es un homme puissant en Israël, et toi, comment tu peux me donner ta grâce? Je crois que c'est ce que nous ressentons avec Jésus-Christ, amen. Nous aussi, nous n'étions pas le peuple de Dieu, nous étions des étrangers, nous étions loin du Seigneur. Et nous aussi, nous disons, mais Seigneur, comment tu as pu nous aimer? Alléluia. Bel exemple de reconnaissance, d'humilité. Et puis d'obéissance, chapitre 3, verset 5, lisons ensemble, il est dit, « Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. » Amen. Ça, c'est peut-être un verset à retirer. Si on faisait une leçon d'école du dimanche, ce serait peut-être le verset de la leçon, « Je ferai tout ce que tu as dit. » L'obéissance de Ruth envers Naomi. Je ferai tout ce que tu as dit. Et en fait, Ruth va être rachetée aussi par son obéissance à ce qu'a pu dire sa belle-mère Naomi. Exemple d'obéissance. La foi n'exclut pas l'obéissance. Quand l'on dit que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, ça ne veut pas dire que nous ne devons plus obéir à Dieu. Nous sommes sous la loi de Christ et nous voudrions obéir au Seigneur Jésus. Amen. Converti, racheté par lui, nous voulons le lui obéir. Et elle trouve Jésus-Christ au chapitre 3, verset 9. Hein, elle vient, si vous connaissez, elle vient au pied de Boaz la nuit sur le conseil de sa belle-mère et il dit, se réveille, qui es-tu ? Qui es-tu ? Et il retrouve une femme à ses pieds. Elle répondit, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Amen. Et au verset 13, il est dit, passe ici la nuit, demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse, mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Amen. Au final, elle trouve Jésus-Christ. De Moab, étrangère, loin, avec cette décennie terrible, néanmoins, Ruth, par la souveraineté de Dieu, finit par trouver Jésus-Christ en Boaz. Elle vient une nuit à ses pieds et Boaz accepte de la protéger. Alors, Ruth est une anticipation de l'Église, l'épouse de Christ. Ruth a épousé Boaz comme l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Boaz nous parle de Jésus-Christ et Ruth de l'Église. L'Église, ce n'est pas un plan bis. Elle a été prévue de toute éternité. D'ailleurs, dès le premier couple, c'est Éphésiens 5, Paul dit, en parlant du couple, que Christ, c'est le mari, et que l'épouse, c'est l'Église. Donc, dès Adam et Ève, il y avait déjà l'annonce de l'Église, épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Son nom est béni. Et vous savez que tout cela est arrivé par hasard. Elle est arrivée par hasard dans le champ qui appartenait à Boaz, dit une traduction. C'est vrai que c'est bizarre comment des fois on s'est converti. Par hasard, quelqu'un nous a rencontrés. Par hasard, on est tombé sur un évangile. Par hasard, Dieu nous a conduits. Alléluia, au salut. On termine avec Boaz, lui c'est le rédempteur, Ruth c'est la rachetée, Boaz c'est le rédempteur. Au chapitre 2, verset 1er, il est dit que c'était un homme puissant et riche. Il n'y a pas plus puissant et riche que Jésus-Christ, amen. C'est un homme aussi plein de compassion et de bonté, parce qu'il a vu Ruth, il l'a aimée, et il lui a donné la permission même de glaner plus que ce que la loi permettait. Même entre les gerbes. Et ce soir-là, quand elle viendra à ses pieds, il ne la renverra pas à vide, mais six mesures lui est donnée. Il a toujours été plein de bonté, de compassion, de générosité. Puis il est juste. Il a aimé Ruth parce que elle était une femme de valeur. Il ne s'est pas arrêté, alors qu'il était juif, de se dire, oh, à son origine, c'est une étrangère. Il a été juste. Et le Seigneur est juste quand il sauve. Il voit parfois que même des prostituées, il voit que des gens de très mauvaise vie, il voit parfois qu'il y a chez eux une quête de vérité. Et le Seigneur sauve avec justice. Alléluia. Enfin, il est déterminé à la sauver. Alors ça, c'est le chapitre 3, verset 18. On le lit ensemble. Il est dit... Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Amen. Boaz a été résolu de tout faire pour racheter Ruth. Amen. Il y avait quelqu'un qui était proche parent avant lui. Et il négocie, il va le voir. C'est beau d'ailleurs de voir cet échange. Mais au jour même, Boaz est devenu le rédempteur de Ruth. Alors c'est vrai que pour être sauvé, il faut se convertir, c'est-à-dire être déterminé à suivre le Seigneur. Mais je voudrais vous dire que si nous sommes rachetés, ce n'est pas avant tout parce que nous l'avons choisi et que nous nous sommes convertis, mais c'est surtout parce que Jésus-Christ a été tellement déterminé de nous sauver qu'elle a été jusqu'au bout à la croix et qu'elle a donné sa vie. Boaz était un rédempteur déterminé et promptement, il a racheté Ruth. Alléluia. D'ailleurs, ça lui était un désavantage parce que en achetant toute la propriété d'Élimélec, qui devait valoir quand même une somme assez importante, il se dépouillait de ce qu'il avait. Parce que tout ce qu'il achetait, donc la somme qu'il mettait pour acheter toutes ses propriétés, après, ça n'allait pas aller pour ses descendants à lui. Mais ça allait aller pour les descendants d'Élimélec. Donc toute l'énorme somme que Boaz a investie dans l'achat de cette propriété, c'était perdu pour lui. Boaz n'avait aucun intérêt à racheter Ruth, si ce n'est d'obéir à la loi qu'il exigeait dans la loi du Lévira. Mais il avait tout à perdre. C'est pour cela d'ailleurs que le premier parent a refusé. Quand Boaz lui dit « Est-ce que tu veux acheter ?» Sa première réaction, c'est de dire « Ah oui, je veux bien acheter. » Mais qu'il lui dit « Ouais, mais si tu achètes, tu perds. Parce que si tu achètes, c'est au nom d'Élimélec. Et cette propriété sera pour la famille d'Élimélec. Donc tout l'argent que tu investis dans cette propriété sera perdu. » Alors là, il dit tout de suite, « Non, non, rachète. Rachète, Boaz. Rachète. » Et pour preuve, il lui donne son soulier. C'était une pratique de l'époque. Jésus-Christ n'avait aucun intérêt de nous sauver. Et ce n'est pas une forte somme d'argent qu'il a perdue. C'est sa vie. Mais il l'a fait pour nous. C'est notre Seigneur. Alléluia. C'est notre Rédempteur. On dirait en français, mais ce n'est pas français. C'est notre Racheteur. C'est notre Rédempteur. Dieu soit béni. Il nous a rachetés pour Dieu. Au final, dans ce passage, Boaz accomplit la loi. La loi du Lévirat. Quelle belle image pour nous montrer que c'est Jésus-Christ qui a accompli la loi pour nous. L'apôtre Paul aux Romains dit « Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Alléluia. Tout était déjà en image dans l'Ancien Testament. Oui, et puis même au chapitre 4, verset 10, il est dit que cette action du Rédempteur va relever la maison d'Élimélec, hein, il dit, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Ça relève les morts. À la fin du livre de Ruth, cette rédemption relève un mort, relève la maison d'Élimélec, de Malclon, de Kiljon. Et oui, l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ relève les morts. Alléluia. C'est la promesse de la résurrection de tous ceux qui auront été au bénéfice de sa rédemption. Amen. Et puis au verset 14 du chapitre 4, Jésus-Christ est célébré. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit de rachat, donc c'est Boaz, et dont le nom, donc bien le nom de Boaz, sera célébré en Israël. » Le nom de Jésus-Christ prophétiquement ici, c'était annoncé qu'il serait célébré en Israël. Oui, nous célébrons Jésus-Christ parce que Dieu nous a donné un proche rédempteur. Amen. Hein, c'est beau cette loi du Lévira qui disait que c'était le plus proche de la famille qui aurait le droit d'être leur rédempteur. Vous vous souvenez comment Jésus a expliqué qui était le prochain ? C'est avec la parabole du bon samaritain. Et à la fin de la parabole du bon samaritain, il réinterroge ce pharisien qui l'avait interrogé, mais dans un mauvais état d'esprit. Et il lui demande, qui a été le prochain de l'autre? Et là, il est un peu gêné parce qu'il n'aime pas beaucoup les samaritains. Et de lui répondre, c'est le dernier. Il ne cite même pas samaritain, il ne dit même pas. Il dit, voilà, c'est le dernier. C'est... Et comme pour nous montrer que, oui, en fait, notre prochain, nous, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Celui qui est le plus proche de nous, celui qui a été tellement proche de nous qu'il a fait plus que le bon samaritain qui a donné quelques pièces pour l'hôtellerie, mais qui a donné sa vie, qui a donné tout son sang. C'est lui notre rédempteur proche. Amen. Rédempteur proche. Rédempteur frère. Il n'a pas honte que nous soyons appelés ses frères. Alléluia. Alors oui, pas un rédempteur loin. Rédempteur adorable, nous avons chanté. Un rédempteur proche. Dieu soit béni. En conclusion, chapitre 4, verset 1, une petite remarque, un détail. Vous voulez bien lire avec moi, s'il vous plaît. Cela, Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche ici, reste ici, toi, un tel. J'aime bien les anonymes dans la Bible. Il y a comme ça dans la Bible des anonymes. Alors, si un jour, dans un jeu biblique, on vous pose la question, comment s'appeler le premier rédempteur prévu de Ruth? Ben, ça serait une question piège. Ou alors, il faudrait répondre, effectivement, un tel. Un tel. Pourquoi cette remarque? La parole de Dieu a la discrétion de pas mettre la honte sur le nom de cet homme. Cet homme n'a pas rempli son devoir d'après la loi, tout simplement parce qu'il était intéressé par l'argent. Mais on ne connaît pas son nom. Eh bien, tant mieux. Ça nous évitera de le critiquer. La discrétion parfois de la parole de Dieu. Nous nous manquons de discrétion. Nous, on n'hésite pas à dire des noms et y revenir. Et il a fait ça, et il a dit ça, et vous vous rendez compte? Il n'a rien fait pour Ruth. Vous vous rendez compte? Quand il a su qu'il allait payer, il a donné son rôle, son devoir à un autre. Ben, personne ne peut parler de lui, on ne connaît pas son nom. Tant mieux. La Bible dit que l'amour couvre les fautes. Amen. L'amour couvre les fautes. Arrêtons de déterrer les fautes. Arrêtons de parler en mal en nommant des gens, des frères, des sœurs. Je pense à rien, j'ai à cœur de le dire, mais je pense à rien de spécial. Mais et je m'y applique. Arrêtons d'être bavards là où l'Écriture est silencieuse. Amen. Parfois, le silence, ça vaut mieux que le bavardage. Amen. Alors, la réponse, ça sera peut-être un tel, le frère un tel. Et si parfois on vous parle de quelque chose, ben, ouais, c'est le frère un tel. Hein, voilà. Non. Conclusion. Lumière dans les ténèbres. C'est au temps des juges qu'il y a cette si belle et lumineuse histoire. Et c'est au bout de quelques temps que je me suis dit ça dans ma vie chrétienne, après quelques années, que j'ai réalisé que cette lumineuse histoire de Ruth a eu lieu dans les ténèbres de la période des juges. Comme quoi la lumière peut briller dans les ténèbres. Amen. Et même dans les temps difficiles de la fin que nous sommes, nous pouvons être lumière dans le Seigneur et vivre à la gloire de Dieu, quelle que soit l'époque. Après, deuxième élément de conclusion, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Au final, Naomi, ça s'est bien terminé. Je pense que dans la vie chrétienne, ce sera toujours un happy end. Le meilleur est devant nous. Dieu fera concourir toutes choses à notre bien. Et dernier élément, quand même la présence de Jésus-Christ dans ce livre, il est à la fois Boaz, à la fois Obed, et à la fois à la fin, versets 17 à 22, la lignée de David. David. Jésus-Christ est présent partout. Amen. Dans toute la parole de Dieu. Il est notre proche parent, Obaz. Il est le fils de notre consolation, Obed. Il est notre roi, David. Alléluia. À son nom soit la gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un veut prier? Merci.